La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'apparition en littérature de ce génial enfant qu'était Rimbaud avait déjà constitué un certain bouleversement dans sa discipline, mais son effacement, sa disparition dans un parcours chaotique en a constitué un autre de bouleversement qui nous interroge lui aussi très profondément. Il y a en effet un mystère Rimbaud qui questionne la poésie elle-même quand l'un de ses plus doués représentants la déclare inopérante et va jusqu'à la renier. Et c'est donc à partir de ce trouble que nous allons interroger la vie et l'œuvre de l'auteur du Bateau ivre. Nous le ferons jeudi en nous demandant si l'une des clés de compréhension de Rimbaud n'est pas politique, avec Frédéric Thomas qui voit en ce poète un tenant du marxisme. La veille, avec Yann Frémy, nous reviendrons sur le recueil Une saison en enfer, le seul réellement publié par Rimbaud lui-même, tandis que demain, c'est André Guyot qui viendra nous entretenir de l'œuvre rimbaldienne pour en extraire les grandes caractéristiques. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de Rimbaud, nous sommes en compagnie de Jean-Baptiste Baronian. Il vient de publier un dictionnaire de la gastronomie et de la cuisine belge aux éditions du Rouergue, comme il avait déjà publié le dictionnaire amoureux de la Belgique en 2015 chez Plon. Mais s'il vient nous voir aujourd'hui, c'est évidemment pour sa biographie de Rimbaud dans la collection Folio des éditions Gallimard. Collection où il avait également publié celle de Verlaine en 2008 et aussi celle de Baudelaire en 2006. Bienvenue à tous dans la Compagnie des œuvres.
Je crois qu'il est très proche de caractère de ce qu'était sa mère, effectivement. Cette espèce de violence obstinée, de grattement de la souffrance, de quelque chose de noir. Et il est proche d'elle aussi dans ses rejets. Vous savez, le mari de sa mère l'avait quitté quand Rimbaud avait été tout petit. Et la mère a fait disparaître sans trace toutes les photographies, toutes les lettres, tout ce qui concernait le père. Tout ce qui venait du père. Et qu'a fait Rimbaud quand il a lâché la poésie, sinon faire subir à la poésie le sort qu'avait subi le père dans la conduite de Vitaly Cuif.
Bonjour Jean-Baptiste Baronian, merci d'être avec nous. On vient d'entendre Pierre Michon, l'écrivain qui avait publié un livre en 1991 intitulé « Rimbaud le fils ». C'est un petit peu comme ça aussi que vous avez ouvert votre biographie de Rimbaud en parlant d'abord de sa mère que vous qualifiez de « femme de pouvoir ».
À coup sûr, parce qu'elle a pu mener à bien une existence qui n'était pas facile. Elle était la mère de 4 enfants, elle avait été abandonnée par son mari très tôt, très vite. Elle a dû s'occuper d'une ferme près de Charleville.
Dans un trou, disait Roche, Rimbaud.
Près de Attigny, qui est la ville natale, par parenthèse, de André Dautel. Écrivain dont on parle très peu, mais qui est remarquable, je veux dire, par parenthèse. Donc elle a dû faire front, s'occuper de ses enfants, de leur éducation, s'occuper en même temps de ses avoirs, de cette ferme. Voilà, donc c'était une femme d'autorité.
Et de devoir aussi.
Et de devoir, oui, tout à fait, parce qu'elle a veillé à ce que ses enfants, donc deux garçons, puisque Rimbaud est le deuxième, il a un frère aîné.
Frédéric.
Puis il y a deux filles, Isabelle et Vitaly, qui portent d'ailleurs le prénom de sa maman. Donc c'est une femme d'autorité. Mais alors, je préfère le dire tout de suite, et j'aime le dire tout de suite, c'est qu'on l'a beaucoup noirci, cette femme, La plupart des biographies concernant Arthur Rimbaud, on l'a présenté comme une femme qui était aussi terriblement bigote, outre le fait qu'elle avait l'autorité du pouvoir, qu'elle était bigote.
C'est pas vrai, elle n'était pas bigote alors.
Naïve, etc. Peut-être qu'elle était, mais il faut se remettre quand même dans la société d'époque. Nous sommes à la fin des années 1860, 70, par là. On est en province, dans une petite ville. Il est difficile d'être révolutionnaire.
Dans la ville de Charleville, dont Arthur Rimbaud, nous ne sommes évidemment pas d'accord avec lui, disait qu'elle était supérieurement idiote entre les petites villes de province.
Oui, vous reprenez dans votre biographie. Et ce qui est intéressant, c'est que les carolopolitains, comme on dit, ne lui en veulent pas. Enfin, ils sont plutôt fiers.
Il y a une rue, une grande rue, Arthur Rimbaud.
C'est oublié. Oui. Ils sont plutôt fiers aujourd'hui d'avoir cette haute figure de la poésie chez eux.
Et alors, quand même, Arthur Rimbaud disait de sa mère qu'elle était aussi inflexible que 73 administrations à casquette de plomb. Il doit y avoir quand même un petit peu de vrai.
Il est très dur, mais en même temps, il faut savoir que il a jamais quitté sa mère, en fait. Hein, quand il quitte le monde de la littérature, le monde de la poésie, qu'il traverse l'Europe dans tous les sens et puis qu'il va se réfugier en Afrique, les lettres qu'il écrit, c'est uniquement à sa mère et à sa sœur. Il écrit aux siens. Donc jusqu'à la fin de sa vie, il reste en relation avec sa mère.
Oui, il faut dire aussi que sa mère, c'est quelqu'un qui doit s'occuper de tout. Et elle a déjà commencé à s'occuper de tout quand elle était adolescente à la ferme. C'était déjà une femme de devoir, mais elle s'est encore plus occupée de tout, puisqu'elle a été quand même une mère quasiment célibataire, elle-même signée la veuve Rimbaud, alors qu'elle n'était pas encore veuve.
Exactement. Mais je voulais surtout insister sur le fait que elle aimait son fils, elle aimait à sa façon. Il n'y a pas eu le cordon ombilical avait été coupé quand même, et elle avait une affection pour ce garçon qui était quand même hors norme. Je crois qu'il faut être une, aujourd'hui encore, une mère aurait un garçon comme Rimbaud, elle serait totalement perdue.
C'est-à-dire un garçon difficile
à se vouer. Donc moi je trouve qu'elle a beaucoup de courage. Et c'est une femme que j'admire, Madame Rimbaud.
C'est-à-dire un garçon difficile.
Je dirais pas difficile, c'est un surtout un garçon rebelle, c'est une sorte d'anarchiste de à la fois dans parmi les siens, dans il est en plus il est surdoué. À 13 ans, à 14 ans, il fait des dissertations en latin, des poèmes en latin, c'est exceptionnel. Enfin, il a une culture, il lit un livre, il le retient par cœur, il lit des poésies, il les retient tellement bien par cœur qu'il les plagie dans beaucoup de ses poèmes. On en a fait l'inventaire d'ailleurs. Beaucoup de ses poèmes contiennent des vers qui sont repris, des décalqués de poètes célèbres. Il copie Victor Hugo, il copie Banville, il copie Musset. Et il les intègre dans ses propres poèmes. Donc c'est un garçon totalement surdoué, et une mère est perdue devant un génie si précoce. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'indulgence pour elle.
Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de la mère de Rimbaud, et on évacue un peu rapidement le père en disant tout simplement qu'il n'était pas là. Il faut qu'on en dise un petit peu plus avec vous, Jean-Baptiste Baronian. D'abord, parler de la rencontre entre les parents. Ça a peut-être commencé comme une vraie histoire d'amour.
Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois qu'à l'époque, on se mariait, je ne dis pas, presque sans amour. On rencontrait une jeune femme ou un jeune homme. Voilà. Et puis, le tracé naturel de la bonne bourgeoisie, c'était le mariage. Donc, on se mariait pour des raisons.
Mais est-ce que c'est la bonne bourgeoisie?
C'est la petite bourgeoisie. C'est la petite. Il était militaire quand même, hein. C'était quand même militaire. C'est d'ailleurs frappant de constater que les trois grands poètes du 19e siècle, que Baudelaire, son père est militaire, Verlaine, son père est militaire, et Rimbaud, son père est militaire. Les militaires jouent un rôle extrêmement important dans le destin de la poésie française. Cet homme a laissé tomber sa femme, et il a eu, on pense savoir qu'il a eu une double vie. Il a donc quitté sa garnison, il s'est installé d'abord à Dole, et puis à Dijon, et il semble qu'il s'est remarié, qu'il a eu d'autres enfants. Il est vraisemblable, mais ça on n'en a pas retrouvé des traces précises, mais il est vraisemblable que Rimbaud a eu des demi-sœurs, des demi-frères.
Alors, il disait de son père qu'il avait un caractère vif, bouillant, souvent en colère, ne voulant rien souffrir qui lui déplût. C'est un père à la fois inaccessible quand il est là et absent la plupart du temps. Ça a souvent des conséquences, ce genre de personnalité sur les enfants. Est-ce que vous avez réfléchi à l'influence de ce père sur Arthur Rimbaud ?
Il y a une influence certaine, et c'est que je crois que... il y a sur le plan, en tout cas, je n'aime pas trop m'aventurer dans ce domaine, mais sur le plan de la psychanalyse, sur ce domaine-là, il est certain que l'absence du père est un des thèmes de l'œuvre poétique de Rimbaud. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, il a cherché à s'identifier à son père absent. Lorsqu'il a donné des informations le concernant pour obtenir des cartes d'identité, c'est le prénom de son père qu'il faisait figurer sur cette carte d'identité. Et alors, même si Madame Rimbaud, la mère d'Arthur Rimbaud, a détruit quasiment toutes les traces de son passage à Charleville et de son mariage, elle a quand même laissé quelques documents, entre autres un dictionnaire arabe-français et français-arabe qui appartenait au père Rimbaud, et que Rimbaud, le fils, a utilisé avec les remarques et les notes écrites par son père.
Oui, parce qu'il faut dire que Rimbaud naît dans un milieu qui est particulièrement doué pour les lettres, y compris sa mère. Les sœurs aussi ont une sensibilité, on le sent dans la correspondance littéraire. Il n'y a peut-être que Frédéric, le frère, qui serait un petit peu moins dans cet esprit-là.
Oui, et puis la sœur Vitalie, qui, lorsqu'ils font le voyage à Londres, écrit un journal qui est un document extrêmement précieux, puisque que grâce à ce journal, on sait beaucoup de choses sur le premier séjour de Rimbaud à Londres. Donc ils sont effectivement tous très doués dans la famille.
À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert où luit la liberté ravie. Forêt, soleil, rives, savanes, il s'aidait de journaux illustrés où rouge il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun, folle, en robe d'indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos en secouant ses tresses, et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon. Et par elle, meurtrie des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre.
Extrait de Les poèmes de 7 ans, Les poètes de 7 ans, pardon, écrit par un Rimbaud de 17 ans et lu par Jean-Baptiste Malâtre. Alors cet enfant de 7 ans, ce poète de 7 ans, déjà sensuel, déjà ironique, Jean-Baptiste Barognan, vous diriez qu'il ressemble à l'enfant Rimbaud ?
Le poème en question ?
Non, enfin le poète de 7 ans que décrit Rimbaud.
Sûrement. Je crois d'ailleurs qu'une grande part de son œuvre est autobiographique, dans le sens, non pas qu'il se raconte lui-même au premier degré, dans le sens qu'il est autobiographique par la pensée. C'est d'ailleurs un poète qui émeut par la pensée et non pas par les sentiments. C'est ça qui est le plus frappant. Donc tout ce qu'il écrit correspond à des choses qu'il a vécues, qu'il a connues, qu'il a ressenties.
Vous diriez que c'est un poète avant tout de l'intellect, pas un poète.
Je crois que c'est ce qui le distingue, mais là on peut en discuter à l'infini. Je crois que c'est ce qui le distingue de la plupart des grands poètes de son époque. Ce qui distingue à la fois de Baudelaire et de Verlaine, Baudelaire qu'il a admiré par-dessus tout, et puis Verlaine naturellement qu'il admirait aussi. À la fois Verlaine et Rimbaud restent des poètes des sentiments, restent des poètes des émotions, restent des poètes de l'amour. Des affres de l'amour, des beautés de l'amour, de la chair, etc. Alors que chez Rimbaud, c'est plus par la pensée. Mm-hmm. C'est plus par... C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des interprétations de type politique, comme ceux que vous aurez cette semaine, de type psychanalytique. À chaque époque, on réinvente la poésie la poésie de Rimbaud. Hein. Quand on a commencé, le premier à avoir découvert, ben, d'une façon spectaculaire, c'est Paul Claudel. Ben, Claudel l'a assimilé au mystique à l'état sauvage, en fond un poète chrétien. Par la suite, il est devenu un poète mystagogique. On a pensé qu'il était un écrivain chez qui il y avait un second langage derrière le langage apparent, qui était un langage secret, un langage occulte. Puis après ça, les surréalistes ont vu un poète qui préfigurait l'écriture libre, l'écriture automatique, etc. Et puis les structuralistes, et puis les psychanalystes. Donc à chaque époque, il y a. Et bien, alors maintenant, il y a tout un courant. Non seulement sur le Rimbaud poétique, mais aussi le Rimbaud scatologique. Il y a pas mal d'interprétations qui laissent entendre que ces poèmes, il faut les lire non pas dans le sens occulte, mais dans le fait que ça cache toute une série de symboles qui sont liés au corps, à la défécation, à l'obscénité, etc., etc. C'est ça qui fait son génie en quelque sorte, c'est qu'on peut l'interpréter comme on veut.
Il y a une grande plasticité en effet de la prose rimbaldienne qui vient peut-être du fait qu'il avait une très grande culture, et cette très grande culture passe beaucoup d'abord par les livres, à cette époque-là, du collège, du lycée. Il lit absolument tout ce qui lui tombe sous la main.
Il lit à peu près tout. Il va à la bibliothèque de Charleville.
Où il dit qu'il se console par la bibliothèque.
Il se console par la bibliothèque parce qu'en même temps, il y a une librairie, hein, puisque il faut savoir qu'il est né dans une maison à Charleville, au rez-de-chaussée, il y avait une librairie. C'est d'ailleurs c'est dans cette librairie, c'est dans allant feuilleter des magazines, des journaux, des revues qu'il a découvert l'œuvre de Verlaine, hein, à travers le Parnasse contemporain. Et puis à la bibliothèque, il a emprunté énormément de livres.
Victor Hugo.
Pardon.
Victor Hugo.
Victor Hugo. Il a semble-t-il lu la plupart des grands romans de Victor Hugo. Donc Misérable, Homme qui rit.
Pourtant, là, pour le coup, sa mère ne souhaitait pas.
Non, parce que Victor Hugo est un auteur qui est proscrit, hein, qui est à l'index, pour employer un terme qu'on n'utilise plus aujourd'hui, qui est à l'index par l'Église catholique, l'a mis à l'index. C'est une œuvre qu'on ne peut pas lire.
Ah, donc elle est bien un petit peu quand même bigote, la mère de Rimbaud.
Donc ça effarouche complètement Madame Rimbaud de voir amener quelqu'un. Victor Hugo, il faut savoir que Victor Hugo, enfin vous le savez, mais tout, on l'imagine pas, c'est je ne sais pas moi, c'est à la fois Philip Roth, Joyce Carol Oates, ça c'est Tournier, enfin Gary, enfin tous les grands écrivains du siècle sont, c'est lui, hein, et qui plus est, il est aussi Madonna, il est aussi Michael Jackson, il c'est une super vedette. il traverse tout son siècle. Alors lire quelqu'un dont tout le monde parle, mais qui a écrit des choses qui sont contraires au dogme chrétien, pas tellement la morale, mais au dogme chrétien, ça, Madame Rimbaud peut pas supporter ça.
Alors il faut quand même prononcer un nom qui est celui de Isambard, le timide.
Ah oui, ça c'est son
Georges
professeur.
Isambard, c'est même plus qu'un professeur, c'est quelqu'un qui l'accompagne dans
les premières années de sa vie. C'est quelqu'un qui est un des premiers, sinon le premier, parce que les autres ce sont des copains d'enfance au fond, hein, de la haie, etc. Ce sont des amis d'école, mais lui, Isambard, c'est même s'il n'est pas très âgé, hein, il a 24-25 ans. Mais il a une connaissance profonde de la poésie et il est le premier à avoir découvert en Rimbaud le génie poétique.
Ouais. Et alors il va assez loin en le prenant sous son aile, en lui prêtant le cas échéant son appartement, sa maison.
Voilà. Et aussi lorsqu'il y a cette fameuse fugue, la première fugue, lorsqu'il va aller à Paris, comme il a voyagé sans titre, il va se faire arrêter. À l'époque, on rigolait pas avec ça. Il est mis en prison ici à la prison de Mazas à Paris, et c'est Isambard qui va payer la caution pour libérer et qui va l'accueillir chez lui. Là, à cette époque, Isambard habitait à Douai, et c'est à Douai qu'il le fait venir. Et après ça, c'est Isambard qui prend contact avec Madame Rimbaud pour récupérer son fils.
Donc on sent une relation très très forte entre les deux, et en même temps, Isambard à un moment donné disparaît.
C'est assez étonnant. on ne comprend pas très bien la disparition du paysage, à la fois de la littérature et de l'amitié. Il n'y a plus aucune trace de la relation entre Isambard et Rimbaud à partir de l'âge de 18-19 ans.
Après. Alors qu'il doit continuer à habiter probablement à Charleville ?
Il habite Douai. Non, il habitait Douai. Hein.
Donc il
avait été nommé professeur à Charleville, mais il n'est pas resté longtemps. Il est resté une demi-saison d'ailleurs, hein, au mois de juillet, à un moment après la remise des diplômes scolaires. Il a regagné Douai. Et là, il a sans doute été professeur à Douai. Je vous avoue que je ne connais pas très bien l'existant d'Isambard, mais ce qui est frappant effectivement, c'est qu'il n'est pas resté en relation avec Rimbaud.
N'ayant presque pas été au théâtre, ni reçu aucun enseignement de la diction, Rimbaud lisait ses vers sans emphase et sans éclat de voix, avec quelque chose de convulsif, ainsi qu'un enfant qui raconte un gros chagrin, et dans une sorte de hâte, avide, pressé de revivre tout cela. Sa voix nerveuse, encore enfantine, rendait naturellement la vibration et la puissance des mots. Il disait comme il sentait, comme c'était venu, comme en un jaillissement précipité de sensations violentes.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et l'écrivain Dominique Noguez, lisant un texte d'Ernest Delahaye sur la diction par Rimbaud de ses propres poèmes. C'est assez émouvant d'imaginer Rimbaud lire ses poèmes. Mais quand est-ce qu'il commence réellement à les écrire, Jean-Baptiste Barraud ?
Il les écrit à l'âge de 12-13 ans déjà. Et je dis, il a commencé, je lis un instant, il a commencé par des poèmes en latin. Mais les premiers poèmes, il avait 14 ans, je dirais.
Oui. C'est là qu'il découvre, grâce à Isambard, donc Banville. Et il va avoir comme projet de partir à Paris et de faire partie des Parnassiens. Est-ce qu'on peut dire un mot sur ce...
Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, donc la littérature dominante, c'est le Parnasse contemporain, donc qui est une revue qui est publié par un éditeur qui compte beaucoup dans le monde politique, qui s'appelle Alphonse Lemaire, qui a son officine au passage Choiseul à Paris. Et c'est là que se retrouve tout ce que le monde poétique compte, d'aussi bien les Parnassiens. Dans les Parnassiens, donc, il y a forcément François Copé, il y a Hérédia, il y a Banville. Enfin, il y a des poètes intéressants. Hein, on a tendance aujourd'hui à les négliger, à les considérer que ce sont des poètes de second ordre, mais ils sont loin d'être négligeables. Rimbaud admire l'œuvre de Banville et lui écrit. Et d'ailleurs, il a rencontré Banville lorsqu'il est venu à Paris.
Il était déçu.
Et alors, il y a cette revue qui s'appelle Le Parnasse Contemporain, qui est une livraison régulière et qui paraît durant plusieurs années, et où la plupart des grands poètes ont écrit leurs premiers textes. C'est là qu'apparaissent, par exemple, les poésies de Mallarmé. C'est là que Verlaine publie la plupart de ses poèmes avant qu'ils soient réunis en volume. Et c'est d'ailleurs en lisant certains des poèmes de Verlaine que Rimbaud a un véritable coup de cœur pour cette œuvre. Donc le Parnasse compte énormément dans le paysage de la littérature, mais surtout de la poésie d'époque et du théâtre de l'époque.
Donc au moment où Rimbaud fait quelques tentatives pour aller à Paris, donc il y a la première que vous avez racontée qui se termine en prison, c'est en effet l'époque des fugues pour Rimbaud, et puis il y en a une deuxième qui va aboutir, puisqu'il va aller vivre quelques temps chez Verlaine. Mais avant d'aborder ce chapitre qui est très important de la relation Verlaine-Rimbaud, peut-être un mot sur Paul Démény.
Ah oui, alors là c'est aussi un point tout à fait à la fois obscur et éclairant, si je puis me permettre d'employer ces deux termes ensemble. C'est-à-dire que lorsque Rimbaud est à Charleville, il est chez Douai, chez Isambard, un ami d'Isambard est un certain Paul Démény. Ce Paul Démény est poète. Et alors il représente aux yeux de Rimbaud un prestige considérable, non pas par le fait que son œuvre est intéressante, mais par le fait qu'il a publié à Paris. Donc c'est la première fois qu'il rencontre en chair et en os un écrivain qui a publié.
Donc ils correspondent et il y a cette fameuse lettre dont on va probablement reparler toute la semaine, qui est la lettre dite du voyant.
Lettre du voyant, qui a d'ailleurs été découverte, il faut le savoir, c'est une œuvre qui passe quasiment inaperçue jusqu'en 1913-1914. Alors, comment écrire à un poète, parce que ce poète, il faut dire les choses comme elles sont. Desmenu est un poète très mineur. Je l'ai lu, ça vaut rien. Hein. Mais il a le prestige, c'est qu'il a publié, et qu'il a publié à Paris. Et s'il a publié à Paris, c'est parce que ça fait partie de sa famille, on lui a fait plaisir pour publier son livre. Et cette œuvre, cette fameuse lettre dite du voyant, qui contient toute la démarche poétique de Rimbaud, qui contient toutes les formulations, le jeu est un autre,
la poésie ne rythmera pas l'action.
Tout ça figure dans cette... Elle est envoyée à un poète mineur et obscur. Pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas ça à Banville? C'est drôle. Pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas ça à Verlaine?
Quelle est votre idée, justement?
Pourquoi est-ce qu'il envoie ça à ce Paul Desmenu qui n'a laissé aucune trace et qui disparaît totalement du paysage littéraire?
Peut-être parce que ce qui compte pour Rimbaud, c'est l'amitié, c'est les élans du cœur.
Non, je crois que le seul point qui l'avait fasciné chez Desmenu, c'est le fait qu'il avait publié un livre. Voilà.
Rimbaud arrive à Paris, nous sommes en septembre 1871, le voilà gare de l'Est, et là, sur le quai, il y a Verlaine et...
Ah non, il n'est pas sur le quai.
Il n'est pas sur le quai,
ah non, c'est ça, ils se sont ratés.
Ah oui, c'est vrai, parce que donc Rimbaud va en effet chez Verlaine.
Soit qu'il y avait trop de monde, soit qu'ils se sont trompés.
En fait, ils étaient donc sur le quai, mais ils se sont ratés.
Ils étaient à la gare, mais ils se sont... Je ne sais pas le nombre de trains qui avaient... Ça s'appelle la gare de Strasbourg. Aujourd'hui, on l'appelle la gare de l'Est, mais à l'époque, c'était la gare de Strasbourg. Ils se sont ratés, mais comme Rimbaud avait l'adresse de Verlaine, il est allé directement...
Rue Nicolet, dans le 18e.
À Montmartre, et là, il est tombé sur la femme... La jeune femme, il venait juste de se marier, Mathilde Mottet de Morville, et la belle famille, puisque c'est dans sa belle famille qu'il disait que Verlaine avait installé son ménage.
Et même Verlaine est belle.
Il n'était pas encore né,
c'est Madame Mathilde. Georges n'était pas encore
là. Était enceinte, etc. Et donc il était allé se présenter en disant, je suis attendu par. Alors Verlaine est arrivé une demi-heure, trois quarts d'heure après, accompagné par Charles Cros, autre grand poète de l'époque. Et c'est là que s'est produit ce fameux coup de foudre dont on parle. Et alors, j'aime bien insister là-dessus, c'est qu'il faut savoir que ce coup de foudre sentimental est aussi un coup de foudre intellectuel. Il est précédé d'un coup de foudre intellectuel. C'est que lorsque Rimbaud découvre la poésie de Verlaine dans le Parnasse contemporain, je ne sais pas s'il est aussi vulgaire que moi en disant « Nom de Dieu, ça c'est de la poésie
oh, ». Rimbaud n'aurait pas employé des mots comme cela, bien sûr.
Mais en tout cas, il est fasciné, il est tout à fait ébloui, encore une fois, j'emploie des termes très propres, il est tout à fait ébloui de par cette poésie. Et lorsque, de son côté, Verlaine reçoit par la poste, par l'intermédiaire d'Alphonse Lemaire, l'éditeur, une lettre écrite de Charleville, par Rimbaud. Dans cette lettre, il y a toute une série de poèmes, 4 ou 5 poèmes, parmi les importants. Verlaine découvre ça, il est de son côté également ébloui. Donc c'est un coup de foudre littéraire.
Et en même temps, la première rencontre à table avec Mathilde, la belle famille de Verlaine, ça se passe pas forcément très bien. Je pense que Rimbaud est assez déçu finalement d'être interrogé comme ça.
Il est assez déçu parce qu'il n'est pas habitué. Bourgeoise. Il n'est pas habitué d'être tombé dans une famille bourgeoise, dans une famille bien tenue, avec des domestiques qui viennent les servir, etc. Et puis lui-même, tout à l'heure vous parliez de sa voix là, mais je pense que sa voix avait quand même un certain accent campagnard. En plus, je crois qu'il sentait un peu mauvais. Il avait là des habits de paysan. Il était gauche. Il était pas très très avenant, hein, comme garçon. Donc il avait comme ça un côté un peu apache qui devait quand même effaroucher les braves gens qui étaient les Mottet de Morville. Voilà, ça s'est passé dans une atmosphère un peu compliquée. D'ailleurs, c'était une sorte de le fameux dérèglement de tous les sens qui figure dans cette lettre du voyant. Ben, il l'exprimait physiquement, lui.
Et Verlaine va l'exprimer aussi à son tour en devenant de plus en plus un Rimbaud, c'est-à-dire en s'habillant comme lui, ses heures avec lui.
Il faut dire que c'est aujourd'hui, avec la distance, tout ça nous paraît un peu, je dirais, naturel, mais à l'époque, c'était justement contre nature, on employait ça. Hein, lorsque deux hommes étaient ensemble, c'était une relation dite contre nature. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart des poètes, même les plus avant-gardistes d'entre eux, les plus avancés sur le plan moral, ne supportaient pas cette relation entre Verlaine et Rimbaud.
Alors du coup, Rimbaud va se balader un petit peu, il va être sans domicile fixe, on va le caser à droite et à gauche. C'est le moment où on va le mettre au cercle Zutique, mais aussi il va vivre chez Charles Cros. C'est quand même un moment très fondateur de la rencontre de Rimbaud et de Paris et de ce milieu-là.
Il va aussi aller chez Banville le recevoir, avant de s'apercevoir qu'il jette ses défécations par la fenêtre, qu'il pisse partout. Enfin bon, c'est un garçon incontrôlable, hein, donc il est très mal vu. D'ailleurs, je suppose qu'on va en parler tout à l'heure, mais tout ça explique un peu son abandon de la poésie par la suite. Hein.
Alors, allons-y, on peut en dire un mot tout de suite.
La question, je ne veux pas anticiper, mais la question que tout le monde se pose depuis 150 ans, c'est le fameux silence de Rimbaud. Mais il faut d'abord savoir que personne ne veut de lui. Le seul qui comprend son génie, le seul, c'est Verlaine.
Enfin, ça ne l'empêche pas d'écrire, il pourrait écrire pour lui.
Mais il publie pas. Il y a un poème publié dans une revue qui est dirigée par Jean Écart, et puis c'est tout. Il publie pas, personne ne veut de ses textes. Et on n'en veut pas de lui parce que c'est un salaud.
Oui, mais il pourrait quand même continuer ensuite. Parce que il a un destin de poète à écrire. Or, en effet,
il a eu comme une espèce de rejet total
de la poésie.
Lui, il écrit, mais le seul à comprendre qu'il a du génie, c'est Verlaine. Verlaine est l'inventeur de Rimbaud.
Donc vous pensez qu'il a perdu confiance en sa poésie? Ça m'étonnerait.
Je vais faire une double réponse. D'une part, je dis qu'il est rejeté, donc il n'est quand même pas idiot. Et il réalise que personne ne veut de lui. Ça, c'est important quand même. Il est quand même conscient que personne ne veut de lui, personne ne veut de sa poésie. Alors, est-ce pour des raisons morales, est-ce pour des raisons sociétales, est-ce pour des raisons littéraires? J'en sais rien, mais je crois plutôt que c'est pour des raisons morales. Alors, la deuxième chose qu'il faut bien se dire, ce fameux silence, mais qu'est-ce qui oblige quelqu'un à ne pas se taire? Pourquoi faut-il écrire toute sa vie? La poésie, c'est une affaire lyrique, c'est une affaire d'adolescence, c'est une affaire de révolte. La plupart des grands textes poétiques sont des œuvres de jeunesse, quasiment.
C'est-à-dire que Rimbaud a sans doute refusé d'entrer dans ce qu'il considérait peut-être comme un système où il ne pouvait pas être lui-même.
Voilà, mais en même temps, je crois que rien n'oblige un écrivain à écrire toute sa vie. On peut écrire qu'un seul... Il y a beaucoup d'exemples d'un seul livre. Pourquoi faudrait-il écrire tout le temps? Rossini a arrêté de faire des opéras à l'âge de 30 ans. Pendant 30 ans, il a vécu de cuisine et de plaisir et de ses droits d'auteur. Pourquoi faut-il toujours écrire?
Mon ami, je ne sais si tu seras encore à Londres quand ceci t'arrivera. Je tiens pourtant à te dire que tu dois, au fond, comprendre enfin qu'il me fallait absolument partir, que cette vie violente et toute de scènes sans motif, que ta fantaisie ne pouvait m'aller foutre plus. Seulement, comme je t'aimais immensément, au niçois qui mal y pense, je tiens aussi à te confirmer que si d'ici à 3 jours je ne suis pas avec ma femme dans des conditions parfaites, je me brûle la gueule. Si, comme c'est trop probable, je dois faire cette dernière connerie, je la ferai du moins en brave con. Ma dernière pensée, mon ami, sera pour toi qui m'appelais du pier tantôt et que je n'ai pas voulu rejoindre parce qu'il fallait que je claquasse. Enfin, veux-tu que je t'embrasse en crevant? Ton pauvre Paul Verlaine.
La célèbre lettre de Verlaine à...
Une lettre magnifique.
Oui, très belle.
Magnifique.
En 1873, Qu'est-ce que vous pourriez en dire, puisque vous la trouvez, vous venez de le dire, magnifique.
Ah, je trouve que j'ai une immense tendresse pour Verlaine. Je trouve ce type.
Vous êtes plutôt pro Verlaine que pro Rimbaud, si on pouvait caricaturer bêtement les choses comme ça.
Si on était en quatre yeux, c'est ce que je vous dirais. Oui. Et on l'est actuellement là.
Oui. Presque.
Je trouve que Verlaine est un poète exceptionnel, tout à fait exceptionnel. Et soi-disant comme ça, il est facile d'accès. C'est pas vrai. C'est une complexité extraordinaire. Mais l'université, lui préfère Rimbaud, lui préfère Mallarmé, lui préfère des poètes un peu plus compliqués.
Pas que l'université, d'ailleurs, la société en général a fait de Rimbaud une icône. Pas vraiment.
Non, mais en même temps, Verlaine, c'est un pauvre type. C'est un pauvre type. Il est partagé entre sa femme qu'il aime toujours et ce garçon qu'il aime toujours, qu'il aime encore. Et il est admirable, je trouve. Il va tout faire pour défendre la poésie, pour faire connaître la poésie de Rimbaud. Il est éconduit, il est jeté, il est banni, il est tonni, et il continue contre vents et marées à écrire sur lui, à écrire dans les poètes maudits, à écrire dans des journaux, dans des revues.
Verlaine, il n'y a pas de connaissance de Rimbaud. On ne connaîtrait pas Rimbaud aujourd'hui.
Non, parce que le seul recueil de poésie que Rimbaud a publié de son vivant, donc dans cette fameuse année 1873, là, il a publié ça à Bruxelles, chez un imprimeur, je sais même pas chez un éditeur. Un bouquin d'ailleurs dont j'ai vu l'édition originale, elle est bourrée de coquilles, de fautes, c'est mal foutu, les caractères changent d'un poème à l'autre, on ne sait pas très bien pourquoi. Il y a des pages blanches à droite, ce qui est honni et banni par tous les éditeurs du monde. Enfin bon, c'est tiré sous les presses d'un imprimeur bruxellois. Le livre n'a jamais diffusé, il n'y a jamais que 7-8 exemplaires qu'il réussit à prélever parce qu'il ne parvient pas à payer ses éditions en plus. Alors il en donne un, alors il a l'intelligence, Rimbaud, d'envoyer un exemplaire de ce livre à la prison de Mons, où Verlaine est en train de purger sa peine et qui va rester pendant 18 mois. Et puis il y a quelques autres, comme à Jean Richepin et d'autres poètes de l'époque. C'est tout. C'est comme si vous receviez aujourd'hui un recueil de poèmes publié au fin fond de la Creuse, dans un petit village, et en service de presse, vous recevez ça à côté de recueils publiés chez Gallimard, publiés chez Grasset, publiés chez Actes Sud, etc. Vous ne regardez pas ce livre.
Donc Verlaine sera toujours fidèle à Rimbaud. On ne peut pas dire que l'inverse soit vrai, et même peut-être bien au contraire. Est-ce que cet amour, finalement, était davantage dans un sens que dans un autre, selon vous?
Ah oui, c'est certainement. Je crois d'ailleurs que Rimbaud, ça c'est une impression très personnelle, Rimbaud n'était pas un homosexuel à 100%. L'autre était Verlaine, aimait aussi bien les hommes que les femmes. Je crois que très vite, Rimbaud s'est détaché des hommes. D'ailleurs, quand il est allé en Afrique, on lui connaît des relations avec des femmes. Il y a même dans une de ses lettres qu'il va se marier, qu'il va avoir des enfants. Alors il y a cette histoire avec Germain Nouveau, grand poète de l'époque.
Rimbaud va repartir à Londres,
oui,
précisément.
Oui, il est parti, mais ont-ils eu une relation amoureuse? Tout ça reste extrêmement, extrêmement mystérieux. Mais d'après ce qu'on peut lire de l'œuvre de Rimbaud, il semble que la présence homosexuelle soit très diffuse. Elle apparaît surtout dans Une saison à l'enfer.
Reviens, reviens, cher ami, seul ami, reviens. Je te jure que je serais bon. Si j'étais maussade avec toi, c'est une plaisanterie où je me suis entêté. Je m'en repens plus qu'on ne peut dire. Reviens, ce sera bien oublié. Quel malheur que tu aies cru à cette plaisanterie. Voilà 2 jours que je ne cesse de pleurer. Reviens, sois courageux, cher ami. Rien n'est perdu. Tu n'as qu'à refaire le voyage. Nous revivrons ici, bien courageusement, patiemment. Ah, je t'en supplie. C'est ton bien, d'ailleurs. Reviens, tu retrouveras toutes tes affaires. J'espère que tu sais bien à présent qu'il n'y avait rien de vrai dans notre discussion, l'affreux moment. Mais toi, quand je te faisais signe de quitter le bateau, pourquoi ne venais-tu pas? Nous avons vécu 2 ans ensemble. Pour arriver à cette heure-là, que vas-tu faire? Si tu ne veux pas revenir ici, veux-tu que j'aille te trouver où tu es? Oui, c'est moi qui ai eu tort. Oh, tu ne m'oublieras pas, dis. Non,
tu ne peux pas m'oublier. Moi, je t'ai toujours là. Dis, réponds à ton ami. Est-ce que nous ne devons plus vivre ensemble? Sois courageux, réponds-moi vite. Je ne puis rester ici plus longtemps. N'écoute que ton bon cœur. Vite, dis si je dois te rejoindre. À toi toute la vie, Rimbaud.
Même de lettres d'amour de Rimbaud à Verlaine du 4 juillet 1873.
Oui, tout ça se passe un peu entre le 1er juillet et le 10 juillet. Tout se noue et tout se dénoue, tout se précipite. Mais alors cette fameuse lettre, celle que nous venons d'entendre là, elle se trouve dans la poche de Verlaine lorsqu'il se fait arrêter. Ah, donc c'est assez compromettant. Mmh. On prend ici un langage judiciaire, donc c'est des choses qui ont précipité sa condamnation.
Alors ça va se terminer, donc comme on le sait, hein, puisque la légende est assez célèbre, assez mal, quand Verlaine va tirer un coup de revolver sur Rimbaud qui est touché...
Deux coups de revolver,
touché à l'avant-bras gauche et donc peut-être ailleurs alors, puisqu'il y a une deuxième balle.
Non, la deuxième balle, elle n'a pas touché, effectivement. Ah. Elle a été retrouvée dans le plancher
alors,
de la chambre.
Rimbaud va quand même essayer devant la police de réduire un petit peu l'effet à un accident malencontreux dû à un excès de boisson, mais Verlaine évidemment, part en prison pendant 2 années. Il sera libéré en 1875, puisqu'il a bénéficié d'une remise de peine.
De quelques mois.
Et alors, il y a des retrouvailles, Rimbaud-Verlaine.
Oui, mais avant d'arriver aux retrouvailles, ce que je voudrais dire, c'est aussi quelque chose qui m'a toujours paru extraordinaire dans l'histoire des lettres, c'est que la fameuse affaire de Bruxelles, cette histoire avec ses coups de feu, etc., tient à rien. Elle tient un mauvais geste, parce que après avoir été blessé, Verlaine, et puis la maman de Verlaine qui est là, elle est venue parce que Verlaine pleurnichard a appelé sa mère à son secours. Donc madame Verlaine est prête
les
à tout faire.
Les mères sont très importantes pour l'un comme pour l'autre.
Elles sont importantes dans les trois cas. Hein. Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, dans toutes les trois, elles sont omniprésentes.
Oui, parce que vous avez donc, on le disait, écrit aussi la biographie de Baudelaire.
Donc, ils vont à Troyes, à l'hôpital qui s'appelle l'hôpital Saint-Jean, qui est le principal hôpital de Bruxelles à l'époque. Il se fait soigner. Et puis, Rimbaud a toujours comme volonté d'aller à Paris. C'est ce qu'il veut. Il dit, maintenant, je veux publier. Il y a toujours à cette époque l'idée de publier, de publier, de publier. Et il dit, c'est la raison pour laquelle il veut quitter Verlaine. Et alors, il faut imaginer le trio dans les rues de Bruxelles. Ils vont à pied dans Madame Verlaine, Paul Verlaine et Arthur Rimbaud, ils vont vers la gare du Midi, où normalement, Rimbaud est censé prendre le train pour aller à Paris. Et alors l'autre n'arrête pas de le supplier. Et puis à un moment donné, ils arrivent à hauteur d'une place qui s'appelle la place Roupe, que vous pouvez toujours visiter, il dit « mais non, tu vas rester ». Et il fait un geste. Ça, c'est authentique, tout ça.
Donc, vous mettez, en même temps que vous parlez, votre main sur votre cœur, sous votre veste, pour que les auditeurs s'en rendent compte.
Et Rimbaud est persuadé que Verlaine va reprendre son revolver et tirer sur lui, pour qu'il reste. Alors, il prend la poudre d'escampette, il s'adresse au premier agent de police venu, et lui dit « Monsieur, regardez, ce monsieur veut m'agresser ». Et c'est comme ça que le trio est amené au poste de police et qui sont interrogés, que les interrogatoires commencent à se suivre et à les uns derrière les autres. Sans ce geste, cette extraordinaire histoire n'apparaît pas. C'est un mauvais geste, un geste malencontreux, c'est un geste malheureux.
Mm-hmm. Alors, les retrouvailles, donc, sont alors, assez après ça, étonnantes après, donc, parce que Verlaine revient avec l'idée de convertir Rimbaud à la religion.
Ah oui, entre-temps, donc, Verlaine à l'hôpital, à la prison, où il est resté 2 ans à Mons, va se convertir au catholicisme et va devenir une sorte de prosélyte du catholicisme et va essayer de convertir tous les gens qui l'entourent. Etc. Donc, il va retrouver. Il apprend que Rimbaud se trouve à Stuttgart, il va le retrouver à Stuttgart, et la première chose qu'il va faire, c'est essayer de le ramener à l'église catholique, et essayer de le convertir à son tour.
C'est la dernière fois qu'ils se voient, tous les deux?
C'est la dernière fois qu'ils se voient. Alors cette rencontre aussi est bizarre, parce que pourquoi est-ce que, s'ils étaient tellement fâchés, pourquoi est-ce que Rimbaud lui remettrait-il le manuscrit des Illuminations? C'est bizarre quand même. Mm-hmm.
Alors,
Verlaine serait très impressionné par les illuminations.
Il lui donne le manuscrit à charge pour Verlaine de le remettre éventuellement à Germain Nouveau ou à d'autres pour qu'on le publie à Paris. S'il n'avait pas confiance en son ami, pourquoi le remettrait-il ce manuscrit ? C'est curieux quand même.
C'est en effet curieux. Toujours est-il qu'ils ne se verront plus.
Plus jamais.
Ce sera le silence absolu du côté de Rimbaud. Alors après, il y a tout un tas d'épisodes, comme par exemple celui où Rimbaud est volontaire dans la Légion.
Dans la Légion hollandaise. Hein, il va pour l'armée des Indes néerlandaises. Il va aller jusqu'à Sumatra. Ouais. Il va recevoir un solde là et à peine est-il arrivé qu'il va se tirer 15 jours après, il va déserter, il va reprendre un bateau qui va revenir vers la Grande-Bretagne, voilà. Mais il n'y a pas de trace de ça dans ses écrits. Donc il a fait le tour du monde parce qu'à l'époque on n'allait pas vraiment par le canal de Suez, hein, donc il a fait un gigantesque tour du monde.
Oui, donc il y a plusieurs voyages, hein, mais toujours est-il qu'il fait des trajets absolument invraisemblables. Il va jusqu'au Cap, à Sainte-Hélène, aux Açores. Parfois, il retourne à Charleville, donc il va revoir sa mère.
Charleville, c'est joli. Charleville, maman, c'est jusqu'à la fin de sa vie, tout le temps.
Et puis 1880, c'est le moment du grand voyage, du voyage définitif, pourrait-on presque dire, Jean-Baptiste Barognan.
D'abord, il y a une date importante qui est à Chypre, hein, qu'il faut pas oublier. Ou d'ailleurs, là, il commence à monter à cheval. Hein, il marche beaucoup moins. Il s'occupe là d'un chantier de construction. Il est un contremaître. Et puis, il est malheureusement atteint d'une grave maladie. Donc, il est rapatrié en France. Il fait soigner. Mais il a toujours comme désir et comme souhait d'aller en Afrique, en Afrique de l'Est. Et puis, à partir, effectivement, 1881, il va s'installer en Afrique.
Je ne vous envoie pas ma photographie. J'évite avec soin tous les frais inutiles. Je suis d'ailleurs toujours mal habillé. On ne peut se vêtir ici que de cotonnades très légères. Les gens qui ont passé quelques années ici ne peuvent plus passer d'hiver en Europe. Ils crèveraient de suite par quelques fluxions de poitrine. Si je reviens, ce ne sera donc jamais qu'en été, et je serai forcé de redescendre en hiver au moins vers la Méditerranée. En tout cas, ne comptez pas que mon humeur deviendrait moins vagabonde. Au contraire, si j'avais le moyen de voyager sans être forcé de séjourner pour travailler et gagner l'existence, on ne me verrait pas 2 mois à la même place. Le monde est très grand et plein de contrées magnifiques que l'existence de 1000 hommes ne suffirait pas à visiter. Mais, d'un autre côté, je ne voudrais pas vagabonder dans la misère. Je voudrais avoir quelques milliers de francs de rente et pouvoir passer l'année dans 2 ou 3 contrées différentes, en vivant modestement et en faisant quelques petits trafics pour payer mes frais. Mais pour vivre toujours au même lieu, je trouverais toujours cela très malheureux. Enfin, le plus probable, c'est qu'on va plutôt où l'on ne veut pas, et que l'on fait plutôt ce qu'on ne voudrait pas faire, et qu'on vit et décède tout autrement qu'on ne le voudrait jamais, sans espoir d'aucune espèce de compensation.
La Compagnie des œuvres sur France Culture, il est très amer quand même, Arthur Rimbaud, on le sent dans toutes les lettres qu'il envoie durant toutes ces années en Abyssinie, en Afrique.
C'est triste. Cette correspondance africaine, toutes les lettres qu'il écrit à sa mère, à sa sœur, sont bouleversantes. Elles sont pas littéraires, hein. Il y a très peu de littérature. Mais entre les informations qu'il donne sur ses divers déplacements là-bas, il y a une profonde tristesse. Il y a surtout un profond ennui.
C'est un mot qui revient très souvent.
Oui, un mot qui revient
l'ennui,
très souvent.
La chaleur aussi accablante.
Il a la chaleur, l'ennui et l'interrogation sur lui-même. Il n'est pas satisfait. C'est vraiment la correspondance d'un homme malheureux. Alors, on a aussi beaucoup glosé hein, sur le contenu de cette correspondance. Est-elle complète? Y a-t-il d'autres lettres? On ne sait jamais. Tout à l'heure, je vous parlais du silence de Rimbaud. On peut rêver. J'aime rêver, moi. Il me fait rêver, Rimbaud. On peut imaginer un destin proche à celui de Pessoa. Hein, on peut imaginer qu'on va retrouver une malle quelque part là-bas, à Harare ou à Aden, rempli de manuscrits, de poèmes extraordinaires, fulgurants.
Il y a d'ailleurs un LSD mercredi prochain, un petit peu sur ce sujet, sur France Culture, voilà, de quelqu'un qui est parti à la recherche de poèmes.
Parce qu'il a écrit là-bas, en Afrique. Et alors, si un jour vous apprenez quelque chose,
vous
m'appelez, on ira ensemble, on fera le déplacement à Aden.
Le trafic d'armes, le trafic de café.
Oui, mais ça, ce sont des choses relativement anecdotiques. Mais il n'a pas vraiment été trafiquant. Ce sont des faits qui sont liés aux diverses péripéties de la vie politique régionale, hein, parce que c'est une région que les Italiens, les Anglais, les Français, les Arabes se disputent sans cesse. Donc il y a de perturber le mouvement.
Ce qui fait que du coup, il ne peut jamais vraiment...
L'Abyssinie va être unie à ce moment-là, donc ce sont des royautés les unes à côté des autres, hein, donc elles vont... Donc, il faut mettre ça dans son contexte historique de l'époque.
Ce qui fait qu'il ne peut jamais vraiment réussir à gagner un tant soit peu d'argent.
Il a gagné. Il a eu de l'argent. D'ailleurs, quand il est rentré en Europe, il avait une ceinture avec toute une série. Il avait de l'or.
Oui, qu'il gardait toujours sur lui parce que c'était très lourd et il n'osait pas la quitter.
Il avait
de
l'argent qu'il gagnait là-bas. Comme employé de cette factory, il n'avait pas d'argent à dépenser. Et il mettait ça sur le Crédit Lyonnais au Caire, et puis cet argent, il l'a transporté, il l'a ramené en France.
Je recommence donc à béquiller. Quel ennui, quelle fatigue, quelle tristesse en pensant à tous mes anciens voyages. Et comme j'étais actif il y a seulement 5 mois, où sont les courses à travers Meaux, les cavalcades, les promenades, les déserts, les rivières et les mers. Et à présent, l'existence de Kudjat. Car je commence à comprendre que les béquilles, jambes de bois et jambes mécaniques sont un tas de blagues et qu'on n'arrive avec tout cela qu'à se traîner misérablement sans pouvoir jamais rien faire. Et moi qui, justement, avais décidé de rentrer en France cet été pour me marier. Adieu, mariage. Adieu, famille. Adieu, avenir. Ma vie est passée. Je ne suis qu'un tronçon immobile.
Un télégramme envoyé depuis Marseille à sa mère et lui ici par Denis Lavant. La fin de Rimbaud, Jean-Baptiste Baronian, elle est connue. Petit à petit, il se découvre malade. Qu'est-ce qu'il a? Un cancer, probablement.
Il y a un cancer. Il y a une suite à des chutes répétées. Il y a sa jambe est gangrenée. On est obligé de la sectionner. Et alors, voilà, les médicaments qu'on avait à l'époque ne permettaient pas de guérir. Ça arrive une fois sur 10. C'est malheureux. Et c'est une suite à une infection, d'un cancer généralisé qui est décédé.
Donc il y a cette fin, quand même entourée de sa sœur Isabelle, son autre sœur est morte quelques années plus tôt.
Ça s'est fait en deux étapes. Il y a une première opération donc, qui s'est faite à l'hôpital La Conception à Marseille, quand il est rentré donc, de Harare, de la Mer Rouge, quand il est rentré en Europe. Sa mère est venue le voir. Sa mère a fait le déplacement de Charleville pour le voir. Et puis après, une fois l'opération a été faite, elle est rentrée à Charleville parce qu'elle devait s'occuper de ses affaires et de sa famille. Et puis, quand il a cru qu'il était guéri, il a voulu retourner à Charleville et il est remonté à Charleville. Et là, il est resté encore quelques semaines.
En attendant une jambe articulée qu'il ne pourra jamais mettre.
On peut penser qu'il a revu de la haie, son ami d'enfance, et puis d'autres. C'était dans un état d'isolement total parce qu'il n'était pas à Charleville, il était à Roche, hein, donc dans ce petit village. Aujourd'hui devenu mythique, puisque Patty Smith a acheté
qui était donc la ferme de la mère de Rimbaud.
Oui, une maison à côté de la ferme, puisque la ferme a été détruite pendant la guerre de 14. Et puis, il a voulu repartir repartir en Afrique. Et alors à ce moment-là, c'est sa sœur Isabelle qui l'a accompagné pour prendre le bateau à Marseille. Et c'est là qu'il est décédé.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Barognan. Pour en savoir davantage, je conseille votre biographie de Rimbaud. Elle est disponible dans la collection Folio, biographie des éditions Gallimard, tout comme celle que vous avez rédigée sur Verlaine et sur Baudelaire. Tout de suite, c'est le moment de la chronique dans En compagnie des revues.
La compagnie des œuvres. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Une chronique aujourd'hui proposée par vous, Pierre Benetti, du magazine En Ligne, En attendant Nado.
Bonjour.
Bonjour à vous. Alors, en attendant Nado, vous nous proposez notamment de revenir sur l'œuvre de Antoine Volodine et de ses hétéronymes.
Oui, vous venez de parler de la malle de Pessoa. Moi, je vais vous parler d'une autre malle qui a été ouverte il y a une trentaine d'années maintenant. C'est la malle des écrivains post-exotiques. Alors, ce n'est pas un mouvement littéraire, c'est une communauté d'auteurs. Et depuis une trentaine d'années, donc, il y a un homme qui signe des livres sous le nom d'Antoine Volodine, qui nous transmet ces livres écrits par une communauté d'auteurs plus ou moins imaginaires ou plus ou moins sortis de l'histoire du XXe siècle, voire peut-être du futur. Alors Antoine Volodine, ça fait déjà un bout de temps qu'il nous a prévenu. Il y aura 49 tomes issus de cette sorte de malle d'écrivains et de sorte d'œuvre collective en 49 tomes. 49 parce que ce sont 49 étapes entre la vie et la mort, puisque cette œuvre a une sorte d'inspiration bouddhiste. Donc on se nourrit de cette pensée-là. On en est au 44e tome et là, cette fois, il est signé Manuela Dreger. C'est aux édition de l'Olivier.
Donc un hétéronyme de Volodine.
C'est ça, mais il faut savoir qu'on trouvait ce nom-là dans un autre livre d'Antoine Volodine il y a quelques années, en 98, dans le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11. On le trouvait ce nom dans une liste d'auteurs dissidents enfermés dans une prison qui continuent quand même de chuchoter des récits, de déclamer des slogans et finalement ce qui est très bouleversant dans ce qui arrive là d'année en année avec cet homme qui nous parviennent, c'est que nous parvient ce champ de détenus malgré tout continue d'écrire.
Alors également à la une de En attendant Nado, vous parlez des extraits du journal de Sándor Márai qui nous manquait, que nous ne connaissions pas, qui n'avait pas été publié en français et qui le sont désormais grâce aux éditions Albin Michel.
Oui, là aussi c'est une sorte de bouteille jetée à la mer depuis un temps déjà assez ancien. En hongrois, il y a 18 tomes de ce journal de Sándor Márai. Alors là, grâce à la traductrice Catherine Fay chez Albin Michel, on a accès à quelques extraits, mais déjà c'est un volume assez important. Alors Sándor Márai, on le connaît comme romancier pour Les Braises par exemple, mais il a rédigé un journal de 1943 jusqu'à sa mort en 1989, donc soit plus de 40 ans, ce sont des milliers de pages, et en français ces extraits nous donnent ce morceau de cette œuvre où on voit les romans se construire au fur et à mesure, on voit Sándor Márai analyser ses sentiments, ses pensées, et aussi nous raconter évidemment les événements dans Budapest dévastés par la Seconde Guerre mondiale. Son appartement est détruit et c'est aussi le moment où Sándor Márai perd un enfant et le souvenir de cet enfant va continuer de le perturber toute sa vie.
Je crois qu'il y a un petit anniversaire qui se prépare aussi chez En attendant Nado.
Ah oui, on est très contents parce qu'on va fêter, on vient de fêter nos 4 ans et là on va sortir à la fin du mois de mars, le 25 mars précisément, notre numéro 100 qui sera un peu spécial. Vous le verrez à la fois sur le site et dans l'application qui est disponible.
Voilà, et puis on en parlera peut-être aussi ici. Merci Pierre Benetti. Je donne rendez-vous à tout le monde sur le site enattendantnado.fr. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Millet, Pierre Cataneo et Jacques Hubert. À noter que les Amis de Rimbaud participent au Printemps des Poètes à Charleville-Mézières les samedis et dimanches 7 et 8 mars. Renseignez-vous si vous êtes dans cette ville. Nous, on fera demain le parcours de l'œuvre rimbaldienne en compagnie d'André Guyot. Et puis puis ce soir, je signale également le premier épisode de la série des matières à penser proposée par Antoine Garapon au sujet des otages français retenus en Iran, Roland Marshall et Farida Adelka.